Et d'abord, la première partie de ce magazine consacré Michael Gineski au sport sur la scène nationale et internationale. On va d'abord parler rugby pour la suite du mondial féminin qui se poursuit en Angleterre. Et le 15 de France a signé une deuxième victoire consécutive en match de poule.
Oui, un succès avec la manière face aux Brésiliennes. 84-5 en faveur des tricolores. Les Françaises qui se sont donc rassurées sur le plan offensif avec 14 essais à la clé après avoir dominé les Italiennes 24-0 lors de leur première sortie dans ce mondial. Écoutez Émilie Boulard, arrière du 15 de France qui a signé deux essais pour son premier match en Coupe du Monde.
On voulait prendre du plaisir et travailler sur l'aspect offensif. Ce qu'on a eu du mal à faire sur les deux derniers matchs, je pense que c'est chose faite. Donc il va falloir construire là-dessus et s'en servir pour les matchs qui vont venir. Je pense que dans le groupe des 32, tout le monde est capable de jouer un match de Coupe du Monde sans problème. Là, c'est top parce que du coup, tout le monde a pu participer à cette Coupe du Monde. Et franchement, c'est une chance de pouvoir jouer des Coupes du Monde. Donc voilà, je pense qu'on va être ravis que tout le monde ait pu participer et jouer. Et après, voilà, il va y avoir des choix qui vont être faits sur les matchs suivants, mais tout le monde aura participé de bonne manière, donc c'est top.
Les Françaises sont donc qualifiées pour les quarts de finale, d'ores et déjà, et ce, à une semaine d'affronter les Sud-Africaines, avec évidemment la première place de la poule D en ligne de mire. L'Afrique du Sud, qui de son côté a battu l'Italie sur le score de 29-24.
Le football, avec la troisième journée de Ligue 1 déjà, et l'Olympico entre Marseille et Lyon s'est terminé par une victoire de l'Olympique Lyonnais.
Au bout du suspense, l'OL qui a pris le dessus sur l'OM. Un but contre son camp de Balerdi à la 88e minute de jeu permet aux Lyonnais de rester sur 3 victoires de rang, alors que les Marseillais étaient réduits à 10 contre 11 depuis la demi-heure de jeu. Leonardo Balerdi, le défenseur de l'OM, prend la responsabilité de cet échec dur à avaler avant la trêve internationale.
C'était dur et c'était triste la soirée. Il faut se tranquilliser parce qu'un défaite comme ça, c'est très dur pour la tête. Il faut profiter ça qu'on a la trêve. Il faut rester humble et parce que on a fait de bonnes choses, mais ce soir, ce n'est pas le cas. Non, il faut recommencer. Il faut recommencer avec Gloria, parce qu'on a un logement et on doit continuer.
Les autres résultats du jour, une défaite de Strasbourg contre Monaco 3-2, le Paris FC a battu Metz 3-2 également, un match nul entre Angers et Rennes, 1-1, enfin le Havre s'est imposé face à Nice 3-1. On rappellera du week-end les succès de Lens sur Brest 3-1, de Lille à Lorient 7-1, de Nantes sur Auxerre 1-0 et enfin du Paris Saint-Germain à Toulouse 6-3. Ainsi, le PSG et Lyon sont seuls aux commandes du classement, les deux seuls clubs qui ont remporté leurs 3 premiers matchs de la saison. Avantage à Paris, au Paris Saint-Germain, bien sûr, au Golavérage, leader du championnat devant Lyon. Lille est 3e. Monaco, Lens, Strasbourg et Toulouse suivent avec 6 points chacun. Marseille est à la 10e place et en bas de tableau, Brest avant-dernier. Metz, lanterne rouge, seule équipe à n'avoir gagné aucun point depuis le début du championnat.
Et pour en terminer avec les sports collectifs du basket, maintenant, les Bleus se sont inclinés pour leur 3e match de l'Euro.
Oui, les Français battus par Israël sur un score de 82-69. Score sans appel, les tricolores ont sombré en fin de rencontre. L'équipe de France restait pourtant sur 2 succès d'affilée contre la Belgique et la Slovénie. La route vers la première place du groupe D se complique. Il faudra battre la Pologne mercredi prochain et l'Islande vendredi pour terminer sur 4 victoires.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1, et c'était ce week-end le Grand Prix des Pays-Bas. Après 3 semaines de pause, pilotes et écuries se retrouvaient en effet sur le tracé de Zandvoort, Lionel Sabot.
Oui, 3 informations à retenir à l'issue de cette 15e manche du championnat du monde. La première, et on va être un peu chauvin, Isaac Hadjar, au volant de sa Racing Buell, a signé le premier podium de sa très jeune carrière en Formule 1. Après avoir signé la 4e place lors des qualifs, Hadjar a réussi à résister tout au long de la course aux attaques de Charles Leclerc puis de George Russell. Hadjar qui a également profité de l'abandon Lando Norris pour monter sur le podium à l'issue d'une course intense.
C'était intense avec toutes les relances safety car qu'il y avait. Ça voulait pas vraiment se terminer. Honnêtement, les derniers tours, je les ai sentis, que ce soit physiquement et émotionnellement. C'était vraiment compliqué de tenir, mais quand je suis arrivé dans les 3 derniers tours, je me suis juste dit de profiter de ces tours. J'étais sous contrôle. Et voilà, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, ça a rechuté et ouais. Que de la joie. Ouais, c'est fou, mais en même temps, c'est quelque chose dont j'irais pas rêver, mais visualiser depuis que je suis petit. J'ai toujours voulu être là. Donc là, c'est mon premier podium en F1 et après, il est arrivé plus tôt que prévu. Mais voilà, j'espère en faire plein d'autres. Et je vais aller remercier tous les membres de l'équipe, leur faire un gros câlin et rentrer à la maison et me repréparer.
Isaac Hadjar, qui est le plus jeune pilote français à être monté sur un podium et le cinquième plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 signé un podium en Grand Prix. Un mot des autres pilotes français, Esteban Ocon a pris la 10e place et Pierre Gasly la 17e. Autre information à retenir, c'est que l'Australien Oscar Piastri, qui s'est imposé devant Max Verstappen et Isaac Hadjar, creuse l'écart avec son coéquipier et principal adversaire dans la course au titre de champion du monde. Oscar Piastri avait 9 points d'avance sur Lando Norris à l'entame de ce week-end. Il repart de Zandvoort avec 34 points d'avance sur le Britannique qui n'a donc pas vu la ligne d'arrivée. Ce Grand Prix marquera-t-il un premier tournant important dans la saison? On y verra peut-être un peu plus clair dans quelques courses. Et puis troisième et dernière information à retenir, c'est qu'à une semaine maintenant du Grand Prix d'Italie, la Scuderia Ferrari a quitté les Pays-Bas avec un 0 pointé. Lewis Hamilton s'est mis tout seul comme un grand dans le mur. Charles Leclerc, lui aussi, a détruit sa monoplace dans le rail de sécurité. Bien aidé, lui, par le jeune Kimi Antonelli. Week-end très très vite oublié pour la Scuderia. Écoutez Charles Leclerc.
C'était un enfer ce week-end, enfin, de la FP1 jusqu'à la course. Malheureusement, en plus de ça, en course, honnêtement, les choses allaient plutôt mieux. En termes de perfo, en tout cas, c'est très compliqué de conduire, donc il fallait être ultra agressif, ce que j'ai fait avec Georges au départ, et ensuite une deuxième fois, parce qu'on a eu pas de chance avec le premier safety car. Mais bon, dans tous les cas, ça aurait rien changé.
Et rendez-vous le week-end prochain pour la 16e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries se retrouveront donc en Italie sur le tracé de Monza.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Et on va poursuivre au chapitre des sports mécaniques. Lionel, pour parler du championnat du monde des rallyes, il faisait étape au Paraguay.
Oui, et la victoire est revenue au vétéran Sébastien Ogier, qui était en lice week-end. Vous savez qu'il choisit ses grands prix, ses rallyes tout au long de la saison. Il l'a emporté devant le gallois Elfyn Evans. Un autre pilote tricolore, Adrien Fourmeau, a terminé au pied du podium à la 4e place. Elfyn Evans est toujours en tête du classement mondial devant Sébastien Ogier et Calais Rovanperä, qui sont à égalité de points.
Du cyclisme, et Jonas Vingegaard qui a remporté la 9e étape du Tour d'Espagne.
Le Danois qui s'est imposé au terme des 196 km du jour devant le Britannique Thomas Pidcock et le Portugais João Almeida. Surtout, il marque des points précieux pour reprendre la tunique rouge de leader de la Vuelta. Le Norvégien Tansten Taren reste en tête du classement général, mais il n'a plus que 37 petites secondes d'avance sur Vingegaard. Pas d'étape ce soir, reprise du Tour d'Espagne demain avec la 10e étape qui emmènera le peloton sur un parcours de 175 km.
Et on va terminer cette première partie du MAC des Sports du lundi avec du tennis. Michael Juneski, les huitièmes de finale de l'US Open et il n'y a plus de Français en lice.
Et oui, la fin de partie pour le triple vainqueur des internationaux de Nouvelle-Calédonie, Adrian Manarino, qui a craqué contre le Tchèque Jiří Hlejka, défaite en 4-7, 7-6, 6-4, 2-6, 6-2. Et par la suite, sans surprise, Arthur Rinderknecht s'est incliné à son tour face au numéro 2 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Défaite du Français, 7-6, 6-3, 6-4.
Merci Michael. Midi et 3 minutes. Dans un instant, on ouvre la deuxième partie du MAC des Sports du lundi consacrée à l'actualité sportive en Calédonie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Jusqu'au vendredi 19 septembre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs, logé 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes, offert par le Sheraton Deva. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 19 septembre à 14h. 371 francs par SMS, ressourcez-vous dans un cadre exceptionnel au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses chambres, bungalows et suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Profitez aussi de ces restaurants, du spa deep nature et du golf. Toutes les infos et actus sur la page Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
La deuxième partie consacrée au sport en Calédonie. On va revenir sur les principaux résultats du week-end et notamment du cricket dont nous allons parler avec notre invité, Michael.
Exactement, Marie-Hélène Connu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale du comité de cricket de Nouvelle-Calédonie.
C'est bien ça.
Ce week-end, donc, il y avait déjà une partie des finales. On va y revenir, évidemment. Il y avait une partie des finales, ça s'est joué chez les dames. Chez les hommes, c'est partie remise, la suite pour le week-end de prochain. D'abord, un regard chez les dames. De manière générale, comment ça s'est passé ce week-end de finale au Stade Ndu?
Ça s'est très bien passé pour les dames. Des belles demi-finales samedi après-midi, avec des nouvelles équipes dans le carré final. Intéressant, oui. Le cricket. Et une superbe finale avec des belles actrices sur le terrain et une belle victoire de la JSUVA, qui ont très, très bien joué. Et comme je leur disais hier, sportivement parlant, ils ont amené de la technicité dans le jeu. Et c'est super, c'est le fruit des entraînements, une très belle préparation, très belle finalité.
Ouais, pour vous, c'est un plaisir de voir les jeunes joueuses d'Ouvéa. D'habitude, les dames de Queenie Espoir qu'on retrouvait souvent aux avant-postes, et pour une fois, ça va vers Ouvéa, mais vous êtes quand même satisfaite de voir l'évolution justement de la pratique.
Oui, l'évolution de la pratique, hein, c'est encadré. Il y a des entraînements, parce que c'est avant tout, que ce soit un sport traditionnel, mais c'est avant tout un sport. Donc, certaines équipes ont compris, notamment la JSUVA. Donc, ils ont instauré des plans d'entraînement, de préparation physique, et ça s'est vu dans le jeu. Très bien. Très bonne évolution du cricket,
voilà, alors,
sportivement parlant. Hein.
Absolument. Du côté des messieurs, on le disait, c'est partie remise au week-end prochain. Ça, c'est les aléas, les transports qui ont posé problème. Tous les matchs n'ont pas pu se disputer dès le samedi, hein, c'est ça?
C'est bien ça. On attendait le deuxième sortant de l'équipe des îles, de la province des îles Loyauté, notamment la SK Kitch. Donc, il y a une première demi-finale qui s'est déroulée, avec la victoire de Béroumas et une équipe d'Ouvéa, l'équipe championne de la province des îles, parce que le tournoi, il se fait en croisé, le premier de la province sud contre le deuxième des îles, et croisé. Donc, ils ont battu Wayne BZ, une nouvelle équipe également, masculine, qui a très bien joué. Et Béroumas, une des équipes phares du cricket masculin, ils l'ont remporté. Donc, la première victoire pour la première demi-finale.
Première blason.
Et malheureusement, la deuxième demi-finale, elle a été reportée suite aux problématiques de transport qui sont assez récurrentes ces derniers temps, aussi bien par voie maritime que par voie aérienne.
Normalement, pour le week-end prochain, on est sûr au
moins. Normalement, week-end prochain, c'est la dernière tentative pour l'équipe de l'ASK Jokic. On leur a demandé de faire tout leur possible pour être présente samedi matin pour la demi-finale contre la JSUVA.
Ah oui, un week-end de finale, ça mobilise des bénévoles, ça mobilise toutes les troupes pour organiser la logistique, tout ça. Évidemment, ça pose des soucis, on le suppose.
Oui, c'est un sacré défi pour l'encadrement, hein, l'encadrement de tous ces clubs, parce que suite aux événements, on n'était pas sûr que ça reprenne. Ça a repris avec une légère baisse de l'activité de 14% à peu près. Mais on est encore en cours d'activité, parce qu'on a encore le championnat, la Coupe Calédonie, le championnat des jeunes territorial et le championnat de cricket international. Donc, évolutif jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, on a une petite baisse. Donc, ça crée. On était étonnés. Et ça demande une sacrée logistique, parce que pour les équipes, notamment des îles, c'est pas évident de venir. Donc, ils ont essayé par tous les moyens à venir petit à petit, c'est-à-dire pour jouer un week-end, ils sont obligés de venir 5-6 jours avant et rester 1-2 jours de plus après les finales. Donc c'est beaucoup d'investissement.
Un impact financier.
J'allais
venir justement aujourd'hui, l'état des lieux, hein, au regard de ces premières finales qui se déroulent, hein, ici pour ce mois de septembre, justement où en est le cricket en Nouvelle-Calédonie. On a entendu le président, hein, du comité sur notre antenne durant le week-end. Il a dit clairement, en 2024, le cricket avait un genou à terre, mais se relève, ça va dans le sens que vous le souhaitez au niveau des instances?
Oui, ça va dans le sens, même on s'attendait à moins, hein, comme on disait. Et on est content, surtout quand on se projette sur le deuxième tableau, c'est-à-dire le cricket international, avec lequel on avait commencé, parce qu'on avait commencé notre saison avec le Women's Ship international, qui a regroupé les 4 pays de 3 équipes de la région. Et ça a apporté de la dynamique et on a continué avec le cricket traditionnel et on terminera la saison sur un mini-championnat sous forme de tournoi avec des T10, c'est-à-dire des mini-tournois avec moins de lancers. Mais c'est prévu dans les prévisions, là. Un tournoi avec 8 équipes masculines, 8 équipes féminines et 8 équipes U19 et 8 équipes U19 filles et garçons.
Une manière de s'adapter pour essayer d'attirer, j'imagine, encore plus la jeunesse. D'ailleurs, ce week-end sur notre antenne, on a pu entendre la capitaine de la JSUVA après le titre, Camille Amwengoto. Justement, elle qui nous dit aussi, puisqu'elle se prépare à partir en métropole, ça c'est pas facile pour la suite, pour les équipes ici en Calédonie, lorsque des joueuses, des joueurs doivent quitter le territoire.
Mais sachez que...
C'est une bonne nouvelle pour vous, c'est plutôt encourageant.
Ah oui, c'est très encourageant que les jeunes partent en métropole, tout en sachant que les deux tiers de l'effectif féminin dans France Cricket, c'est-à-dire de lequel nous on dépend actuellement, on apporte les deux tiers de l'effectif. Donc la pratique, elle est beaucoup ici. Il y a moins de pratique en France, mais ça leur permet de voir autre chose, de jouer avec l'équipe de France U19 en France, de rencontrer d'autres pays. Donc non, c'est un plus.
Oui, puisque c'est ça le grand chantier qui était lancé, malgré voilà, ce qui s'est passé en 2024 et tout, l'impact sur le sport. Ce grand chantier qui est lancé, la Calédonie pourvoyeuse de joueuses, de joueurs pour le cricket international, discipline qu'on attend aux Jeux Olympiques. Là-dessus, le projet continue d'aller sur de bons rails. On a eu la visite des instances nationales. Mm-hmm. Ça va dans le bon sens, ça ?
Oui, ça va dans le bon sens. Certes, c'est pas facile hein, le cricket international, on avait du mal depuis ces dernières années. Mais ça a apporté de la dynamique. On a un projet sportif émanant de France Cricket. On a travaillé conjointement. Donc, en même temps que le tournoi qui est prévu en fin d'année, il y a une formation d'arbitrage, une formation d'entraîneur, une formation de scoreur. Donc, c'est sur les rails. Ce qui nous manque maintenant, c'est les infrastructures sportives, notamment du foncier.
Les joueuses et les joueurs, eux, ils ont vu ce projet. Pour eux, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Ils veulent la saisir.
C'est une opportunité, c'est une ouverture au haut niveau. Donc oui, je pense qu'ils saisiront cette belle opportunité.
Eh bien, on attend de suivre tout ça avec impatience. En attendant, rendez-vous le week-end prochain pour la suite des finales du championnat chez les messieurs. Marie-Hélène Cognieu, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi dans ce Mac des Sports.
Je vous en prie, merci.
Merci beaucoup. Le cricket, on a donc parlé avec notamment la finale dames qui a eu lieu hier. On va revenir sur les autres événements sports du week-end en Calédonie et notamment de l'athlétisme avec dimanche la 42e édition du Marathon international mobile de Nouvelle-Calédonie.
Et côté résultat, Gabriel Espada, encadrant sportif au RSM, s'est imposé sur le parcours phare, un temps de 2h32 minutes 14 secondes d'effort. Il a devancé Florian Marot, le triathlète membre des forces de gendarmerie, et Jérémy Duval, pompier et encadrant à Sport Action Nouméa. En quatrième position, Natalia Prado qui a terminé avec un temps de 3h9 minutes et 43 secondes. Vous avez pu entendre les deux champions dans nos éditions du week-end. Près de 1500 participants étaient au rendez-vous ce dimanche hein, sur les baies de Nouméa pour cet événement. Le public aussi était nombreux. Écoutez Bruno Dumais, l'organisateur de cet rendez-vous.
Une énorme satisfaction. Quand on connaît les difficultés à organiser une manifestation de ce type en ville et qu'on voit l'engouement des Nouméens, enfin des Calédoniens, pas que des Nouméens, des Calédoniens, ça prouve que ce genre de manifestation est nécessaire à la ville. Une participation colossale, près de 1500 personnes, tout compris. Un grand merci aux FANC qui ont une participation massive, évidemment, puisqu'ils sont plus de 700, aux FANC et aux forces de l'ordre en règle générale.
Un pincement au cœur, peut-être. C'était la dernière aux commandes de cette grosse machine hein, qui est la tenue du Marathon international de Nouvelle-Calédonie.
Alors c'est vrai que normalement, je passe la main, effectivement, l'an prochain. Je pense qu'il faut amener quelques idées neuves dans le dispositif, mais je serai là comme conseiller technique et puis donner un coup de main le jour J, c'est évident. Ça va faire 33 ans que je m'occupe du marathon, 23 ans de président. Bon, je passe la main, mais pas complètement.
Voilà une épreuve qui se déroulait hier matin au départ de l'hippodrome Henri Millard de Nouméa, un parcours qui emmenait les coureurs le long des baies de la ville.
Voilà pour ce qui concerne le marathon qui a été l'un des événements du week-end. Il y avait aussi ce week-end du cyclisme sur piste avec sur le vélodrome de Magenta les championnats de Nouvelle-Calédonie.
Un moment important pour les jeunes pistards très motivés et de plus en plus nombreux à rejoindre les rangs dans cette discipline particulièrement spectaculaire. Ils ont apprécié ces trois journées d'épreuve. Pour certains d'entre eux déjà, les championnats de France de l'avenir dans le viseur.
Je m'appelle Gardin Hugo, je suis en catégorie cadet, donc U17, et je suis parti du club de l'ECV. Ce week-end, c'était pas mal, on a bien roulé, un peu déçu les deux premiers jours et content le dernier jour pour la poursuite où je suis devenu champion de l'Académie.
Moi je m'appelle Anouk, je suis en 15 et je suis dans le club de ECV. L'important c'est participer, mais j'essayais au moins d'être, même si je suis tout seul dans ma catégorie, d'être sur le podium. Et c'est sympa parce que ça fait progresser tout le monde. Voilà.
Je m'appelle Colin Laurent, je suis en catégorie U15 et je suis dans le club de ECV École de Cyclisme. Franchement, on est tous contents, on est là, tout le monde est présent, que ce soit pour le championnat et toutes les compètes. Voilà, il y a une bonne ambiance, tout le monde s'amuse. Maintenant, on voit les résultats, franchement, ça va, des bons résultats. Puis, voilà. On encourage beaucoup de jeunes qui peuvent s'inscrire au vélo, tout le monde s'amuse en vrai.
Et parmi les résultats de la dernière journée, on soulignera la victoire en poursuite U17 du Gros Gardin de l'école calédonienne du vélo dans la course au point U15. Colline Laurent, également de l'ECV, a remporté le titre et dans la course au point moins de 17 ans, Chad Charest s'impose au terme d'une belle bagarre.
Ce week-end, c'était aussi la Coupe de Calédonie de football, les demi-finales, ce qui fait qu'on connaît l'affiche de la finale, Michael.
On aura droit à un duel entre l'AS Magenta et Tigasport, les deux meilleures équipes de la saison régulière de Super League. Elles ont chacune remporté leur demi-finale. Magenta d'abord, qui a dominé Horizon Sport sur le score de 2-0, le coach de l'ASM, Pierre Wadjoka.
Oui, c'est mes objectifs atteints, il faut aller au bout. Une finale, comme on dit toujours, hein, dans les mœurs, ça se gagne. Dans les moments comme ça, dans les matchs en jeu, c'est les détails. Et les détails, il faut être efficace. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont été efficaces. Chaque joueur a été efficace. On s'y en a marqué. En face, ça a eu des très bons joueurs, comme chez nous. Et c'est pour ça que ça a donné un bon football. Bravo aux garçons, c'était pas facile face à une grosse équipe.
Et Tigasport, de son côté, s'est imposé sur le même score. 2-0 face au CA Saint-Louis. Magenta, Tigasport, la finale de la Coupe de Calédonie, prévue le 20 septembre prochain au Stade Noumadélé.
Toujours en football, rappelons dans la région que la sélection calédonienne des moins de 16 ans s'est inclinée en finale du tournoi OFC. Une défaite 2-0 face à la Nouvelle-Zélande, mais les jeunes cagous ont tout de même décroché leur billet pour la Coupe du Monde U17 au Qatar en 2026. Il suffisait, entre guillemets, qu'ils s'imposent en demi-finale, ce qu'ils avaient fait face aux Fidji. On va terminer par du touch rugby à 13 ce samedi. L'objectif des organisateurs, Michael, c'était de continuer à promouvoir la discipline.
Ouais, près d'une centaine de personnes étaient réunies au Stade Pentecôte à Nouméa pour cet événement visant à continuer de dynamiser ce sport. Écoutez, Manu Jalabert, il est le responsable du club Pacific 13.
C'est du touch 13, hein, ce coup-ci, là. C'est-à-dire qu'il y a des variations par rapport au touch de d'habitude. On a adapté un peu les règles pour que tout le monde puisse, sur la journée, puisse s'adapter, parce qu'effectivement, c'est une discipline à part entière. Le rugby à 13 se porte bien. La crise de 2024 et le Covid nous ont obligés à avoir une géométrie variable. Ça nous a mené à une génération de joueurs qu'il fallait qu'on leur ouvre des opportunités. C'est le cas pour 7 d'entre eux qui vont partir en métropole, jouer dans des grands clubs métropolitains, notamment la plupart sont dans des groupes dans la division élite 1. Bon, ils vont jouer en U19, hein, mais c'est déjà pas mal. Deux joueurs qui sont prévus pour partir en Australie, jouer une pré-saison, c'est-à-dire ils vont avoir 5 semaines pour se frotter à une équipe en pré-saison. Et s'ils sont à la hauteur, et ben, ils pourront faire la saison avec cette équipe. Là, et on a eu en plus 3 jeunes qui ont eu la chance d'être invités à participer aux entraînements de l'équipe de France U19 en Australie. C'est vraiment un sport d'avenir, dans le sens où, si le projet se réalise, on va pouvoir avoir une équipe francophone qui va jouer dans le championnat australien. Donc ça peut être aussi une belle vitrine pour les entreprises qui nous suivront.
Le club Pacific 13 qui continue de développer ce sport en Calédonie, une discipline très populaire, notamment chez nos voisins australiens. Le club qui compte sur des soutiens. Toutes les informations à retrouver sur la page Facebook Pacific 13.
Allez, on prend connaissance, Michael, des derniers résultats qu'il faut retenir.
Et en badminton, les interclubs faisaient leur retour. Compétition qui se déroulait à la salle Omnisport de Lens-Vata. Bonne préparation en vue des grands événements qui arrivent dès le mois de septembre et octobre, avec notamment le championnat territorial jeune. Sur les terrains de handball, des tests du pôle espoir se déroulaient ce week-end à la salle Wayo de Coutuois, alors qu'un tournoi mixte ouvert à tous était mis en place samedi à l'arène du Sud de Païta. Et puis de la voile avec la 4e manche du Challenge Sirius Solar Industries organisé par le Cercle Nautique Calédonien. Samedi, 22 bateaux en lice. Poulpito MLSF CD, skippé par David Tréguet, s'est imposé en temps compensé. Motorboat 2 de Vincent Trinquet en temps réel. Dimanche, en double, avec un record de 18 équipages, BNC Léon Maynette, skippé par Michel Quintin, s'est imposé en temps réel et compensé.
Merci Michael. Il est midi et 19 minutes, c'est la fin du Mac des Sports du lundi. Infomac se poursuit avec Thierry jusqu'à 13h. Je vous souhaite évidemment une belle après-midi.
L'actualité ne s'arrête jamais sur rrb.nc.